Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts. Marie-Laure de Noailles, née Marie-Laure Henriette Anne Bischoffsheim, est une personnalité atypique et incontournable du XXe siècle. Mécène, passionnée d'art, de musique et de littérature, elle a consacré sa vie et sa fortune aux artistes d'avant-garde, les soutenant, les finançant, les hébergeant et collectionnant leurs œuvres. Je suis née à l'intersection des étoiles qui doivent s'éteindre, écrit-elle, et pour cause. Elle voit le jour en 1902, dans l'hôtel particulier de son grand-père, le collectionneur d'art Ferdinand Bischoffsheim, membre d'une richissime dynastie de banquiers allemands, dont elle sera l'unique héritière. Elle appartient également à la vieille aristocratie française, sa grand-mère n'étant autre que Laure de Sade, descendante du sulfureux marquis, et l'un des modèles dont s'est inspiré Marcel Proust pour la duchesse de Guermantes. Laure de Sade, comtesse de Chevigné, est une femme haut en couleur, vivant au cœur de la vie mondaine et littéraire. Selon Paul Morand, elle serait la première femme du monde qui ait dit « merde ». Marie-Laure écrit à propos de la relation de sa grand-mère avec Proust « J'ai vu Marcel à mon dernier bal chez Étienne de Beaumont. Il était minuit, il venait peut-être de se lever. Il ne savait pas que ma grand-mère Chevigné m'avait employée à mettre ses lettres au panier. » « Ce sont des dindonnades de ce raseur de Marcel, » disait-elle. Son père décède très jeune de la tuberculose. Petite fille fragile, unique héritière d'une immense fortune, elle vit une enfance surprotégée, triste et sans amour. Son amie d'enfance, Adeline Mallet, parle d'elle comme la prisonnière de tout un conformisme, de trop de soins, de surveillance, de fortune, sujette à des aspirations non définies, se heurtant à des murs invisibles, privés de simplicité. Le remariage de sa mère avec le dramaturge Francis de Croisset lui donnera cependant un beau-père avec lequel elle développe une grande complicité. Dès le berceau, Marie-Laure se trouve à la tête d'une collection artistique exceptionnelle composée d'objets, de meubles et de tableaux de maîtres tels que Delacroix, Géricault, Goya, Rembrandt, Rubens, Van Dyck ou Watteau. L'art fait déjà partie intégrante de sa vie et ses aspirations vont naturellement vers les artistes. À 15 ans, elle rencontre Jean Cocteau, dont elle tombe très amoureuse, en vain. En 1923, la richissime héritière épouse le vicomte Charles de Noailles, petit-neveu de la poétesse Anne de Noailles et fils du prince de Poix. S'ils ne s'aiment pas vraiment, ils sont plutôt bien assortis. Issu d'une très ancienne famille d'aristocrates, Charles en a assez des traditions et souhaite se consacrer à la modernité. Quant à Marie-Laure, elle ne rêve que de faire sauter les carcans. Il s'installe à Paris dans l'hôtel particulier dont hérite Marie-Laure au 11 Place des États-Unis. Ce sera le lieu de grandes fêtes costumées et de réceptions fastueuses réunissant un grand nombre de jeunes artistes. Cocteau, Dali, Bataille, Gide, Breton, Éluard, Artaud, Poulenc, Nijinsky, Liffard, Balanchine, Huxley. Sur les murs voisineront les œuvres de Goya, Rembrandt, Rubens, avec celles de Dali, Picasso, Ernst, Klee, Braque, Mondrian ou Brancusi. Le couple se voit offrir une propriété sur les hauteurs de Hyères. C'est l'occasion de laisser enfin libre cours à leur fantaisie. Après avoir contacté Ludwig Mies van der Rohe, qui n'a pas le temps, ou Le Corbusier, avec lequel ils ne s'entendent pas, ils jettent leur dévolu sur l'architecte Robert Mallet-Stevens. La commande est claire, construire une maison infiniment pratique et simple où chaque chose serait combinée au seul point de vue de l'utilité. La Villa Noailles sera l'un des premiers bâtiments modernistes d'Europe. Il inspire de nombreuses métaphores aux journalistes de l'époque. La villa cubiste, le paquebot immobile ou le château en béton armé. Pour les gens de Hyères, en revanche, c'est la maison des fadas. Sortie de terre en 1924, la villa évolue en permanence. Une tourelle est démolie, de nouvelles extensions apparaissent, un escalier dévale la colline pour conduire à de nouvelles chambres, toutes équipées d'une pendule électrique et d'une salle de bain. Bientôt, le salon rose et le gymnase s'ajoutent à l'ensemble. À l'extérieur, le jardin cubiste dessiné par Gabriel Guévrequian alterne un ensemble de mosaïques noires, rouges et bleues. Le couple y ajoute une sculpture monumentale de Jacques Lipchitz. Mais l'espace le plus remarquable est de loin la piscine. Il s'agit de la première piscine privée et couverte de France. Ses larges baies s'escamotent dans le sol, permettant d'ouvrir l'espace sur la terrasse et la vue imprenable sur la mer. L'aménagement intérieur est à la pointe de l'avant-garde. Vitraux de Louis Barillet, tapis d'Éline Gray, appliques de Pierre Charot, fauteuils de Jean-Michel Franck, chaises à tubes de fer de Marcel Brouwer, table de jeu de Charlotte Perriand, table de salle à manger avec plateau tournant de Joe Bourgeois. En 1924, les Noailles prennent leur quartier d'hiver à Hyères. La villa devient le lieu de rencontre des artistes d'avant-garde, à l'instar de l'école du Bauhaus, basée à Dessau. Salvador Dali, André Breton, Alberto Giacometti, Francis Poulenc, Jean Cocteau, Man Ray et Louise Buñuel investissent régulièrement les lieux. Pour André Gide, ces séjours sont un ravissement. Vraiment, je ne me souviens pas d'avoir pris, même dans ma jeunesse et mon enfance, plaisir plus ardent, plus pur et plus complet, écrit-il. Marie-Laure n'a qu'un désir, vivre entourée des artistes et de leurs œuvres. Mécène de l'avant-garde, elle achète, collectionne et soutient ce qui lui plaît et dans tous les domaines, que ce soit la peinture, la danse, la musique, la littérature ou les arts décoratifs. Elle apprécie tout particulièrement le mouvement surréaliste, dont l'audace et la provocation semblent répondre à ses aspirations subversives. Elle soutient les créations cinématographiques de Man Ray, Jean Cocteau et Louise Buñuel. En 1928, elle commande à Jacques Manuel un court-métrage intitulé « Biceps et bijoux », dont l'objet est surtout l'enregistrement de souvenirs et de moments passés à la villa. En 1929, Man Ray tourne « Les mystères du château de D ». Et un an plus tard, les Noailles financent le premier film de Jean Cocteau, « Le sang d'un poète ». Marie-Laure de Noailles se plaît à remettre en question les valeurs de son monde. Alors quoi de plus grisant que de commander un film dont l'objet serait un hymne à l'amour fou comme force subversive, capable de détruire la morale religieuse et bourgeoise, comme le dit si bien Julie Verlaine dans « Femmes collectionneuses d'art et mécènes ». L'âge d'or de Louise Buñuel sort en novembre 1930 et déclenche un énorme scandale. Jugé obscène, le film est interdit de diffusion pendant 50 ans. Dès lors, les Noailles sont mis au banc de la haute société. Le couple bat de l'aile et se sépare. Cependant, Marie-Laure et Charles s'écrivent tous les jours. Pendant que Charles s'isole à Grasse, Marie-Laure se partage entre la Suisse, où elle vit un temps avec le musicien Igor Markevitch, Paris et Hyères. Elle se consacre à la peinture et à la littérature. Elle soutient le peintre Baltus, l'acteur Pierre Clémenti, offre sa Zil, une limousine soviétique, à César pour qu'il la compresse. Indépendamment de son goût pour la musique contemporaine, la vicomtesse s'entoure de Cole Porter, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday et Salvador Adamo, pour qui elle offrit une somptueuse fête d'anniversaire à Hyères. Elle continue de mener une vie mondaine et culturelle brillante, mais toujours en décalage par rapport à l'époque. En 1964, l'écrivain Mathieu Gallet note « Nous avons tous le sentiment de vivre par effraction un inexplicable sursis des luxes passés. » La demeure de la vicomtesse de Noailles est l'ultime reflet des grands salons d'autrefois. Elle reçoit régulièrement Aragon, elle soutient les républicains espagnols et le gouvernement du Front populaire en 1936, et en 1968, elle se rend sur les barricades en Rolls-Royce. Elle assume tous les scandales qu'elle suscite. À sa mort, survenue subitement en 1970, Charles de Noailles décide de vendre à bas prix la villa à la municipalité de Hyères pour qu'elle devienne un espace culturel, dernier acte de mécénat du couple. Marie-Laure de Noailles est une femme à la personnalité hors norme. Mécène de l'avant-garde, elle ressent toutes les contradictions, toutes les tensions de son époque et contribue à leur expression à travers l'art qu'elle soutient. En 1963, le dramaturge Marcel Achard écrivait « Tous les artistes de cette époque doivent quelque chose à Marie-Laure. Elle leur a permis de s'exprimer mieux et quelquefois de s'exprimer tout court. Elle était libre, elle vomissait l'affectation, son intelligence en donnait aux autres », écrit François Boudot qui la rencontre en 1968. Elle ressemble alors à une tortue de conte de fées. Elle aura figuré tout à la fois la dernière représentante de son milieu et la première à le dynamiter. Il y a comme cela des figures dont le modèle n'est tiré qu'un seul exemplaire. Pour en savoir plus, je vous invite à lire Marie-Laure de Noailles, La Vicomtesse du Bizarre, de Laurence Bennaïm.
C'était Muses et Mécènes, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les mardis et jeudis à 7h30 et 13h30.